19h-20h, les informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Bonjour chers amis auditeurs, quel plaisir de vous retrouver. Oui, un plaisir quotidien ici, y compris celles et ceux qui sont en vacances. Je vous souhaite de passer de très bonnes vacances. Mais n'oubliez pas une chose, l'application vous suit partout. Même quand vous êtes en train de skier ou que vous soyez au soleil en pleine plage ou que vous soyez tout simplement en repos, eh bien l'application Beurre FM est avec vous et elle vous accompagne. N'oubliez jamais ça, hein. Vous la téléchargez sur votre portable. Allez, c'est parti, au sommaire de cette émission, nous allons démarrer ce début de semaine avec évidemment plein de sujets qui ont retenu notre attention. Vous savez, il y a un débat qui fait sujet et qui fait polémique. Le droit du sol. Alors Gérard Darmanin, le ministre de l'Intérieur, a décidé de supprimer à Mayotte le droit du sol. Alors la question se pose, et finalement, est la France dans tout ça? Nous en parlerons, y compris avec vous, au 01 53 48 3000. Plus d'un élève, oui, la ministre de l'Éducation nationale, Madame Nicole Belloubet, eh bien, l'a dévoilé aujourd'hui, hein, à Reims, que les résultats d'une grande enquête sur le harcèlement scolaire s'inquiètent beaucoup, effectivement. Selon le ministère, eh bien, beaucoup sont victimes, finalement. C'est pas un ou deux, c'est nombreux, finalement, c'est un véritable fléau. Je fais exprès volontairement d'employer ce terme. C'est un fléau. On va en parler. Parce que je sais que vous, auditeurs et auditrices, vous étiez très très nombreux à en parler. Bah tiens, je vais ouvrir le standard maintenant. 01 53 48 3000. Oui, avec cette fameuse clochette. Parce que vous étiez très nombreux à parler de vos enfants qui étaient victimes de harcèlement scolaire. Oui, y compris dans le 9-3, les amis. Faut pas avoir, évidemment. Vous savez, il faut retirer ses préjugés du cerveau. Et puis, nous reviendrons sur une situation, vous savez quoi ? Très inquiétante et qui préoccupe beaucoup, qui préoccupe le monde désormais. Les États-Unis ont alerté Israël, la France a alerté Israël, l'Europe a alerté Israël. Sachez que Rafah, c'est le désastre. La crainte à la fois d'un désastre humanitaire, à la fois dans l'enfer de Rafah et la peur de nouveaux massacres. Ça mérite une double clochette. Alors moi, je ne vous en cache pas qu'effectivement, régulièrement, je le traite ici même dans les informés, j'en parle de la situation sur le conflit israélo-palestinien. Vous savez que moi je suis un fervent militant de deux États. Je suis un fervent militant pour la paix, parce que je considère que ces deux pays doivent cohabiter ensemble, doivent s'entendre depuis des années, ça ne date pas d'hier. J'ai toujours considéré que, effectivement, ces deux États et ces deux pays sont condamnés à cohabiter ensemble, mais surtout à s'entendre, parce que je considère que c'est une même histoire. Donc c'est l'émanation d'une même histoire. Et puis, arrêtons de dire, évidemment, c'est des sémites, l'un et l'autre. Donc il n'y a pas de raison, effectivement, de ne pas trouver une voie de paix, de trouver une issue. Bref, toujours est-il, Rafah, ça me préoccupe. Ça me préoccupe parce que là, c'est les enfants, c'est les mamans de part et d'autre, même si, évidemment, n'oublions pas le 7 octobre, mais voilà, la situation aujourd'hui, elle est plus que dramatique. Elle est très, très, très inquiétante. 01 53 48 3000, j'ouvrirai l'antenne tout à l'heure et on va en parler avec mon invité. Il y a aussi les débatteurs, influenceurs qui sont là, qui sont autour de ce plateau et qui vont confronter leur point de vue. Ils ont que des grandes gueules. C'est vrai, hein, parfois il y en a pas, mais que, voilà, c'est que ça, c'est bien aussi. Hein. Le billet d'humeur, Michel Taube, qui est éditorialiste dans différentes chaînes de médias, mais également il est le directeur fondateur d'Opinion Internationale. Allez, c'est parti, c'est tout de suite, c'est maintenant, et en toute liberté d'expression.
Les informés, le face-à-face.
Le face-à-face avec l'interview, tout d'abord l'interview. Avant de retrouver l'interview, je vais d'abord accueillir Karim Maloum.
Bonjour. Bonsoir à tous.
Comment
bonsoir
ça va, Karim Maloum?
Ça va très bien.
Ouais. Très bien. La semaine dernière, beaucoup d'auditeurs ont commenté votre, justement, vos opinions. Ah, eh ben, vous avez fait polémique.
Hein. Oh, eh ben, autant aujourd'hui. Ouais.
C'est ce sur des sujets. Beaucoup m'ont dit, mais pourquoi vous continuez à l'inviter, Monsieur Farkin? Je dis, parce que c'est la liberté d'expression et parce que j'ai toujours défendu la liberté d'expression. Je peux pas dire en introduction, en toute liberté d'expression, et d'inviter ceux qui posent problème. Moi, vous savez, ça a toujours été ma logique. Philippe Mauconnet, d'ailleurs.
Ah ouais,
c'est vrai ou pas?
Carrément.
Ah, c'est qui? Toujours. J'ai été, quelles que soient les radios que j'ai traversées de Radio France en passant par Génération, j'ai toujours considéré que la liberté d'expression avait toute sa place. Donc, Karim Maloum a toute sa place aussi.
Le problème, il faut toujours nuancer ses propos et surtout, la situation est un peu compliquée dans le monde, la géopolitique s'impose à nous et qu'on a des conflits partout, et donc c'est pas évident d'avoir une seule voix, ouais, une seule idée, il faut nuancer ses propos.
Ben tiens, Philippe Nadiboye, qui est l'élu, le conseil régional, lui aussi, il fut une époque, on m'a dit arrête de l'inviter, et je leur ai répondu non, j'aime bien le personnage, j'aime bien ce qu'il véhicule, je continuerai à l'inviter. C'est vrai ou pas?
C'est vrai.
C'est vrai. J'ai un coup de gueule d'ailleurs à ce propos, hein, pour le championnat du monde qui s'est un peu.
Kickboxing.
Rien, c'est bien, c'était bien. Augustin.
Bonsoir.
Comment ça va?
Très bien, et vous? Il n'y a rien sur moi encore? Rien sur moi?
Non, ça va. Augustin Vargue, il passe bien. Non, il passe crème, comme disent certains. Il passe crème.
Il faut s'interroger. Si vous passez crème, il faut s'interroger. Si vous êtes lisse, il faut s'interroger.
Non, pourquoi? Au contraire, c'est bien. C'est bien.
Non, parce que j'essaie d'être nuancé aussi. C'est pas facile.
Ah non, moi, bagarré, moi.
Non, d'être clivant, c'est bien aussi. Jimmy Dalidou est clivant. Karim Maloum est clivant. Philippe Nadjiboy est clivant. Bah après voilà, c'est le principe.
La nuance, c'est la force de la proposition et surtout de Clévier aussi. Il faut pas faire plaisir, il faut nuancer ses propos pour inviter les gens au débat. Ouais. Si on n'a pas la science infuse.
Sinon, c'est vrai que l'unanimisme, c'est un concept c'est un peu compliqué.
Ouais. Avant de retrouver l'interview, vous y serez pour Cédric Doumbé?
Bah je sais pas.
C'est début mars. Hein.
Ouais, je sais pas.
Ouais. Ah moi je kiffe pas. MMA.
Mais moi aussi. Ah. Mais
eh ben tiens, pour le coup, là, je soutiens.
C'est PFL qui
fait ça. Cédric Doumbé, je vous
Il faut qu'on les... Il faut m'inviter, messieurs PFL. Je suis pas de sous, moi. J'ai pas d'argent.
Vous êtes un élu, vous avez le bras long.
Grassement payé, quand même.
Un élu comme vous, il est invité, normalement.
Bah non, ça dépend de l'organisation. Quand c'est des petits trucs, ils ont besoin de people, de gens pour avoir une certaine notabilité. Quand c'est des gros mastodons, ils en ont rien à faire.
Bon. Allez, on va s'intéresser, vous savez quoi, à justement la situation à Rafah avec notre invité, Mornia Labsi. Mornia Labsi, qui est une femme militante, engagée, qui va nous parler notamment, vous savez, d'un événement qui se déroule précisément cet événement samedi prochain. Alors, c'est un peu tôt pour en parler, mais on en reparlera. Elle organise un grand événement autour de, évidemment, de la situation. Est-ce qu'elle est avec nous, Mornia, monsieur le réalisateur, Solal? Elle n'est pas là. Bon, on a un problème de liaison avec elle, c'est pas grave. Nous allons parler, on va la rappeler et on prendra son interview. Karim Maloum, on va parler de ce premier sujet. Faut-il supprimer le droit du sol en France, avec notamment cette déclaration qui a été lancée, vous savez quoi, à Mayotte. Karim Maloum.
Au fait, le débat sur l'immigration et sur la nationalité, c'est pas la première fois, c'est non seulement une dizaine de fois, je pense, depuis une dizaine d'années, on en parle. Alors, chaque fois qu'on en parle, ça clive. Il y a trop de démagogie, il y a trop de non-dits, et on bascule dans le vide souvent, et on termine par ne rien faire. J'ai l'impression que ce débat qui a commencé sur Mayotte, qui est une spécificité. C'est un territoire français, bien entendu, dont 50%, il n'y a que des Africains, il y a des Comoriens, il y a des étrangers. Et qu'aujourd'hui, toucher à la Constitution pour régler un problème dans un territoire, ça va remettre en cause l'article 1 de la Constitution, parce qu'il y a un seul territoire, il y a uni et indivisible.
Sauf qu'aujourd'hui, on se pose la question. Alors, pas seulement à Mayotte, finalement, pourquoi pas en France?
C'est une brèche, et ce brèche, ça peut être, ce qui se passe dans l'outre-mer, ça peut être un laboratoire pour la France. Et ça, c'est un danger, bien entendu, qui peut se poser. Il faut qu'on soit courageux. Si on a un problème avec un département comme Mayotte, on peut poser autrement le problème. Faut-il le garder?
Ouais.
Faut-il le garder?
Est-ce qu'on a départementalisé? Qu'on connaissait les tenants et les aboutissants en le départementalisant?
Non, mais justement.
C'était ça, en fait.
Alors oui ou non?
On savait qu'ils
avaient
le problème avec les Comores.
Ouais.
On le sait depuis longtemps, des dizaines d'années.
Oui, c'est
donc
vieux,
c'est pas nouveau. Donc effectivement, le droit du sol, le droit du sang, effectivement, ça se pose. En tout cas, ça se pose pour Mayotte et pourquoi pas, hélas ou pas, après pour le territoire national, enfin le territoire métropolitain.
Parce que ça peut être un laboratoire, effectivement.
Nabil Aitaka, je vous accueille. Bonjour. Je pensais que vous n'alliez pas venir, Nabil.
Bonjour. Bonsoir, Adil. Bonsoir, tout le monde.
Je suis désolé. Vous êtes un vrai fidèle, vous, hein?
Oui, je.
Alors, vous me dites, vous ne pouvez pas venir, mais en même temps, vous êtes venu.
Non, je vous disais que j'étais en chemin. Mais que c'était compliqué de venir aujourd'hui.
Comment ça va, Nabil Aitakash?
Ça va, très bien, et vous?
Ouais, celui qui est responsable de Renaissance sur le département du 93. Philippe Nadjiboya, qui tient.
Co-responsable.
Ouais. Allons-y. Shannon, c'est la présidente.
C'est la présidente?
Ouais.
Ça commence, qu'on reçoit ici de temps en temps.
Alors dites-moi tout sur le droit du sol. La fin du droit du sol.
Alors premièrement, le droit du sol ne fait pas partie de la Constitution. Il fait partie du droit civil. Donc c'est un truc qui peut être modifié hyper rapidement. Mais effectivement, mon camarade à côté a raison. L'article 1 de notre Constitution, il impose que, où que vous soyez en France, vous êtes dans le même état de droit. Donc si vous l'appliquez dans un département, le 100e département à Mayotte, vous devez l'appliquer aux 99 autres départements, plus les départements ultramarins. Sinon, c'est pas possible. Enfin, il y a un problème de constitutionnalité sur le dessus. Est-ce qu'on doit garder Mayotte ou pas? Ah, moi, ce débat me dépasse. On peut pas y répondre en 5 minutes.
Moi, j'ai posé la question. Est-ce que réellement, on peut pas. En plus,
alors, vous n'arrivez pas à parler parce que vous avez avalé un bonbon. Je vais vous retirer ce bonbon. Il a la bouche pleine. Allez-y, Philippe Ladjiboye, qui est monsieur le conseiller régional. Un peu d'exemplarité.
Je me suis laissé tenter une petite douceur dans ce monde.
Vous avez raison.
Si on est là-bas, c'est qu'il y a quand même une situation stratégique d'y être.
Territoriale, notamment.
Tout à fait, parce que du coup, les eaux territoriales agrandissent le territoire de la France. Y a de réels problèmes, spécifiquement et typiquement sur Mayotte, où 50% de la population ne sont pas français. Et effectivement, il y a des clandestins qui arrivent avec des femmes qui accouchent, et donc l'enfant est français, et donc du coup, les parents ont un titre de séjour.
Un peu plus compliqué que ça, ceci dit. Mais, parce que
non, mais je simplifie. Du coup, est-ce qu'il ne faudrait pas modifier la règle pour dire que même si l'enfant naît, vous n'avez pas un titre de séjour automatiquement, et donc ça peut décourager les gens. Alors le seul problème, c'est que si ce n'est pas le cas, on va se retrouver avec plein de mineurs isolés. Donc, dans ces cas-là, isolés, ils deviennent pupilles de la nation, et puis nous, on les prend et on renforce nos contingents militaires, par exemple.
Juste la Constitution, dans son article 73, a prévu d'adopter un certain nombre d'articles, effectivement, tout ce qui se passe dans les départements.
Finalement, je pose la question, est-ce que ce ne serait pas une décision radicale pour endiguer, pour résoudre la crise migratoire? Nabil Etaka, justement.
Alors, sur Mayotte, moi, je vais être très, très clair. Je pense que quand vous écoutez, d'ailleurs, les responsables politiques sur place, ceux que la population de Mayotte vont élire sur des scrutins locaux, donc qui sont aussi des députés envoyés à l'Assemblée nationale, tous vous disent que la situation est intenable, absolument intenable, et que qu'en fait la question,
c'est la question radicale.
Oui, donc la décision, je ne sais pas si c'est une décision radicale, je la qualifierais pas comme ça, mais le ministre de l'Intérieur propose cette solution qui est d'arrêter le droit du sol sur le territoire de Mayotte pour une raison, c'est que tout simplement c'est devenu impraticable en fait. C'est-à-dire que vous avez une immigration irrégulière, et vous en parlez, vous en avez parlé juste avant. La situation est intenable, il faut une solution. Et la solution, il faut répondre aussi à la détresse de la population de Mayotte, qui vit en fait dans des conditions déjà assez difficiles, mais que l'immigration clandestine aggrave. Il faut arrêter d'ignorer
L'État, il le savait depuis des années.
Augustin,
ça. Pourquoi à chaque fois on gère l'urgence? On gère le feu quand il y a du feu. Alors, les agriculteurs. On ne sait pas gérer, on ne sait pas anticiper. Les acteurs locaux savent remonter les informations. Ils l'ont remonté à l'État depuis des années. Qu'il y a une urgence,
Qui date depuis quand même un certain nombre d'années. L'immigration clandestine s'est aggravée ces 20 à 30 dernières années. Donc on va pas dire que c'est un phénomène récent.
L'implosion là.
Oui, il faut quand même prendre le temps de bien comprendre ce qui se passe. La population l'exprime clairement. L'exprime clairement.
Donc là, c'est juste avant l'été qu'il prévoit un référendum, le congrès.
Mais donc quoi, vous voulez que le droit du sol soit arrêté aujourd'hui à date?
Je sais pas,
On peut discuter, mais nous sommes un état de droit.
Voilà, nous sommes dans un état de droit.
Un citoyen français, on change la constitution.
Mais qu'est-ce qu'on fait?
On ne change pas la constitution là. Là, moi, je crois que si le ministre de l'Intérieur. Alors, pour tout vous dire, en général, les sujets juridiques ne m'échappent pas.
De la Constitution, il faut le modifier.
Je pense que sur ce sujet-là du droit du sol à Mayotte, je ne crois pas que ça demande une révision de la Constitution. Si
les 3/5 au Congrès, par contre.
C'est pas l'avis de tout le monde.
Les 3/5 au Congrès. Les 3/5.
Mais c'est la même chose
pour une loi, parce que c'est une loi.
Mais c'est la même chose qu'on fasse un référendum au fil du Congrès, ça revient au même.
Non, c'est un référendum, ça revient au même.
Non, 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 non.
tu peux pas faire les deux.
C'est pas les deux, soit l'un, soit l'autre.
L'un des deux, ça revient au même.
Mais si on, ça prendrait trop de temps.
Si on dit, il faut être courageux. Je pense qu'il faut faire preuve de courage politique de dire, est-ce qu'on ouvre les débats sur le droit du sol ou pas?
Mais c'est ça le débat.
Non, non, non.
Vous faites de la polémique. Il est posé pour le sujet de Mayotte. Est-ce qu'il a été posé
Mayotte, c'est la France. Donc si tu le poses pour Mayotte, il faut le poser pour la France.
Non, mais ça, d'accord. Mais Mayotte, pour un territoire français d'outre-mer, c'est Mayotte. Donc on n'a pas parler de le remettre en question absolument, je crois.
Non, mais non, le problème,
vous touchez
non,
à la France.
Non, Nabil, le souci, là-dessus, je partage l'avis. Si tu ouvres ce débat pour Mayotte, tu es obligé de l'ouvrir pour l'ensemble de la France. C'est un bien principe sûr de constitutionnalité. C'est pas
mais
possible.
Ça, je peux, de la on,
sinon, sinon
ça, je n'y crois pas.
Sinon, laisse-moi finir. Sinon, on devient des États fédéraux, comme aux États-Unis, où chaque État a ses propres lois. Il y a une loi de principe organique de base.
Mais non, mais tu mélanges absolument tout. Ça n'a rien à voir, l'État fédéral et la Constitution.
Mais non,
l'article
1,
ça n'a rien à voir.
Si tu changes la loi pour Mayotte, elle s'applique de fait pour toute la France.
On marque une pause. On marque une surenchère.
On marque une pause et on se retrouve tout de suite après.
Il faut l'ouvrir.
0153483000, chers amis auditeurs. Vous pouvez venir en parler. 0153483000. On marque une pause. On se retrouve tout de suite après. À tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. 19h-20h, Les Informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Et 19h20 précisément, si vous voulez nous retrouver, avec notamment les quatre débatteurs Nabil Takache, Augustin Vargue, Karim Maloum et enfin Philippe Nadji Boyaki, tous autour de ce plateau, mais y compris vous, au 0153-48-3000, vous pouvez nous appeler, Solal vous accueille avec grand plaisir pour livrer votre point de vue. Tout de suite l'interview.
Les Informés. L'interview.
L'interview avec, c'est avec une militante associative, une militante engagée, Marnia Labsi. Marnia, bonjour Marnia Labsi.
Oui, bonsoir.
Bonsoir, merci d'être avec nous Marnia. Je voulais absolument que vous soyez avec nous parce que effectivement aujourd'hui vous nous sollicitez régulièrement parce que vous nous alertez, vous avez raison de nous alerter, sur urgence Palestine, notamment sur les différentes manifestations qui se déroulent, mais sur la situation actuelle à Rafah avec la crainte d'un désastre humanitaire, mais surtout la crainte d'un nouvel enfer. Qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui sur la situation qui préoccupe désormais les États-Unis, la France, l'Europe et le monde?
Et les principaux concernés, les Palestiniens et les Palestiniennes, hein, puisque là, par exemple, je me rends directement à une réunion d'urgence, hein, au grand point politique sera fait. Donc clairement, c'est une hystérie macabre hein, que souhaite perpétrer Israël, puisqu'on a à cet endroit-là, donc dans le sud de Gaza, une majorité de gens qui ont été déplacés ces trois derniers mois. Donc beaucoup de réfugiés finalement dans cette ville, pour très peu d'espace. Et cette offensive terrestre qui est sur le point d'être mise en œuvre par Israël, en tout cas, c'est ce qu'elle menace de faire, sera à la fois une catastrophe humanitaire sans précédent, mais une catastrophe de génocidaire, pire que la dernière séquence que nous avons vue. C'est d'une part, je pense, une manière pour Israël et son gouvernement d'extrême droite de montrer clairement sa volonté de d'arriver à terme de cette offensive, mais c'est aussi parce que c'est un endroit stratégique, puisque cette ville, elle est clairement, excuse-moi, je parce que je marchais entre temps, mais elle est clairement dans un endroit stratégique puisqu'elle est à la frontière égyptienne, donc c'est un moyen pour eux à la fois de contrôler les entrées et les sorties humaines, mais aussi de contrôler les éventuels passages de produits matériels, etc.
Marnia Labsi, est-ce que clairement, hein, vous et d'autres, c'est la peur avec de nouveaux massacres désarmés, puisque vous avez employé le mot génocide.
Oui, clairement là, depuis déjà le milieu de la semaine dernière, avec les Palestiniens, les Palestiniennes de Boussole Palestine qui sont au sein d'Urgence Palestine.
Vous les avez rencontrés, vous, il y avait une délégation, effectivement.
Oui. Alors, enfin, nous, on est régulièrement en lien, mais également avec les médecins de Palmed, etc. Mais là, on voit bien quand même que sur les visages des Palestiniens et des Palestiniennes qui ont encore leur famille à Gaza, les visages se ferment et il y a quelque chose de très grave qui se prépare. Donc, nous avons tout intérêt, pour ceux et celles qui sont mobilisés un peu partout à l'international, de crier, de continuer à se mobiliser, d'aller sur les endroits stratégiques et d'anticiper en dénonçant vraiment par anticipation le massacre qui risque d'être pire que ce qui s'est fait sur trois mois.
Marnia Labsi, vous prévoyez, me semble-t-il, hein, avec d'autres associations, des manifestations pour justement faire entendre la voix de cette crainte.
Oui, alors on a d'abord on a avec Urgence Palestine Nationale des mobilisations assez régulièrement. Mercredi, il y a un rassemblement devant le ministère des Affaires étrangères et aussi avec des organisations et des syndicats, de la magistrature, des avocats, etc., qui ont pendant toute cette séquence constaté les atteintes aux libertés, les libertés d'expression, les libertés de circulation lors des manifs, etc. On fait une action, une espèce de réunion à l'Alcazar, un très bel endroit à Marseille, samedi, pas celui-là, l'autre, l'après-midi, pour discuter autour de cette séquence que nous vivons et qui est jamais vue en termes de pratiques liberticides et antidémocratiques pratiquées par le gouvernement français en place.
Merci de nous avoir livré votre point de vue, Morgnia Labsi.
Merci à toi, Adil, et merci beaucoup à vous de relayer parce que...
On en parle, c'est normal, la situation est préoccupante, donc on en parle, effectivement, c'est aussi le rôle de Beurre FM. Nabil Etakache, on fait un tour de table justement sur la situation, avec cette crainte désormais, ça y est, la question se pose, dans l'enfer de Rafah, la peur de nouveaux massacres, mais surtout la crainte d'un désastre humanitaire, Morgnia Labsi parlait d'un génocide.
Nabil Etakache. Mais on n'est plus dans la crainte, Adil, c'est déjà un désastre humanitaire. C'est déjà une catastrophe, c'est indécent ce qui s'y passe. Moi, je n'ai pas les mots vraiment pour décrire ce qu'on voit. Moi, ce qui me fascine, c'est vraiment le fait que beaucoup restent encore silencieux là-dessus. Je suis assez pessimiste. Moi, je serai que dans l'émotion là. Hein. J'ai beaucoup de peine pour les Palestiniens. Je n'arrive pas à comprendre qu'on en soit là aujourd'hui. C'est déjà une catastrophe. Ce que je ne comprends pas encore aussi, dès le départ, on a vu que que la riposte était excessive. Biden le dit aujourd'hui. Je pense qu'on est beaucoup, 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 sans être des spécialistes de relations internationales ou de droit de la guerre, etc. On l'a vu que ça allait être très, 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 très sale. Et cette guerre est extrêmement sale.
Netanyahou vous répond en disant que on est obligé de faire cela parce qu'effectivement il y a eu le 7 octobre et que les otages sont retenus.
7 octobre, c'est le paravent éternel.
Et que les otages sont retenus.
Mais là, ils commencent à froisser tous ses alliés, supposés.
Voilà. Les gens commencent à parler parce que justement Biden a ouvert la voie en disant qu'il pense que la riposte est excessive. On le sait que la riposte est excessive. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'on passe d'horreur en horreur. On est passé de mettez-vous, allez dans le sud, on va bombarder le nord, et ensuite ils bombardaient, l'armée bombardait les gens qui se réfugiaient dans le sud. Là, ils sont dans le sud, il y a quoi ? Il reste la mer et le désert du Sinaï.
Donc voilà.
Donc moi, je ne vais pas mettre les mots. Je ne vais pas mettre les mots de ce que c'est en fait. Beaucoup le font pour moi et pour nous sur ce plateau. Mais je trouve ça de la plus grande des indécences et que ce gouvernement d'extrême droite est une calamité et qu'il va falloir tout faire, toute la pression possible au niveau international pour pouvoir faire bouger les choses.
Faisons un tour de table. Augustin Varga.
Ce que je disais, c'est que tout à l'heure, c'est qu'il commence à braquer tous ses alliés supposés, les Américains, même les Anglais, David Cameron a diligenté des choses aussi. La France est complètement aussi, on va dire, assez neutre, visiblement, de plus en plus.
Même si elle a alerté.
Et elle comprend de moins en moins l'Italien. Moi, je pense qu'il va falloir peut-être se poser la question de traîner ce monsieur à La Haye, au tribunal international de La Haye, parce qu'il faut l'arrêter.
Vous pensez ?
Ça va être un désastre. Et ça va. Donc au nom du 7 octobre,
ils sont en train.
C'est à l'infini.
Ils sont quand même en train de dire aux gens de remonter du sud vers le nord, là où tout a été bombardé.
Bien sûr.
C'est-à-dire que là, vous avez des gens qui sont dans le sud, parqués dans des tentes, avec des enfants malades, des gens qui ont des maladies chroniques qui ne peuvent pas être soignés, et on va leur dire, bon, on va continuer de bombarder le sud, remonter dans le nord, il n'y a plus rien de toute
façon
là-bas.
Et après le nord, on redescend dans le
voilà.
sud.
Voilà, donc moi, je ne sais pas exactement où on va, le monde perd la tête.
Karim Malou.
Oui, je rejoins ce qui vient d'être dit, effectivement, c'est un drame humanitaire et sanitaire, humainement, ce qui se passe dans la bande de Gaza est terrible depuis 3 mois. Ça a commencé le 7 octobre, bien entendu, mais ça fait 3 mois, c'est un drame humain. Seulement, il faut nuancer ses propos. Oui, effectivement, il y a un drame. Mais il faut une solution. Il faut sortir de ce bourbier. Aujourd'hui, on se rend compte à Rafah que tous les dirigeants du Hamas, politiques ou militaires, sont à Rafah. Les 134 otages sont en captivité et sont à Rafah. Les 3 Français en captivité sont à Rafah. C'est un fait. C'est-à-dire que on peut dire que c'est un drame. Mais
une fois qu'on a dit, est-ce que ça justifie le...
Oui. Non, c'est pas. Je vais dire, ce n'est pas du tout justifié. En même temps, on a un problème politique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelle est la solution? Il faut s'en sortir. Soit on demande à Israël de sortir de la bande de Gaza et le Hamas revient à diriger une nouvelle fois la bande de Gaza. Donc les islamistes ont triomphé haut la main. C'est pas un triomphe uniquement palestinien, c'est un triomphe dans le monde entier. Et puis il y a 134 otages en captivité. Il faut le peser. Je vais terminer. Il faut peser le problème ou bien dire qu'il faut à tout prix que la communauté internationale revienne à la première proposition du président de la République qui a été négligée, mise de côté. Il faut une force internationale à intervenir.
Oui, mais ça, ce n'est possible qu'un moment d'un cessez-le-feu.
Pour faire un cessez-le-feu.
Donnez
la parole à Philippe Nesibouy.
Ce n'est possible qu'avec un cessez-le-feu. Moi, je m'interroge, en fait, parce que si vous voulez, ça fait quand même un certain nombre de... Ça fait un certain nombre de semaines et de mois que les États-Unis, qui ont la clé ce conflit. Hein. C'est les États-Unis qui ont la clé. Parce qu'on peut dire ce qu'on veut en France, on sait que c'est les États-Unis qui ont la clé. Parce que notamment, ils financent cette guerre. Mais je crois que ce gouvernement d'extrême droite, ne veut pas d'une solution de deux États. Ils n'en veulent pas, clairement, visiblement, là. Donc, si vous voulez, on peut dire on va s'en sortir politiquement. Moi, je ne demande que ça, la diplomatie, la solution politique. Mais ce que vous êtes en train de raconter, ce n'est pas praticable.
Qu'est-ce qui est praticable?
Il faut un cessez-le-feu, point.
D'accord, entre qui et qui?
Donc, il faut un cessez-le-feu.
Soyez précis. Soyez précis. Un cessez-le-feu entre Israël et la Hamas. Soyez courageux de le dire.
Mais
donc, on va négocier.
Attendez,
il faut négocier avec la Hamas. Il faut négocier avec la Hamas.
Mais monsieur, ils le font déjà.
Il faut négocier.
Ils le font déjà.
Dites-le où on va négocier.
Vous nous apprenez rien. Non, aujourd'hui, j'ai l'impression. On dirait que vous donnez un nouvel élément.
La trêve a été négociée avec le Qatar.
Moi, j'ai aucun problème à dire que le Hamas est une organisation terroriste. C'est pas la question.
La question n'est pas là.
Parce qu'on dirait que vous nous donnez un nouvel élément.
Il faut un cessez-le-feu pour une trêve. Ok. La trêve, elle est définie. C'est pour libérer les otages.
Il faut la libération des otages.
Mais ils ne veulent pas les libérer.
Mais ils doivent le faire.
Vous n'avez qu'à appeler aux dirigeants de Hamas de les libérer.
Soyez sérieux. Vous savez, non, c'est pas sérieux des deux côtés.
Vous faites un constat, ce que j'aime pas dans ce débat. On fait un constat. Aujourd'hui, on doit libérer les 134 otages. C'est impératif.
Vous êtes plus royaliste que le roi. Même à la Maison Blanche, Biden ne dit pas ça. Donc, j'ai du mal à
comprendre. Comment il faut faire donc?
Tout simplement qu'il faut la négociation de ce cessez-le-feu très rapidement.
Philippe, on l'a pas entendu. Le conseiller régional, Philippe Ndjiboyaki.
Non, mais c'était passionnant. Donc,
oui, c'est pour ça que j'ai laissé volontairement l'échange. Mais en même temps, Nabil Itakash soulève quelque chose. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de cessez-le-feu, il n'y a rien alors. Donc c'est-à-dire, c'est nos limites, comme il dit le mot. C'est nos limites, c'est vrai.
Le problème, on va assister, et je vous le dis, à une catastrophe, à une boucherie.
C'est déjà le cas. Qu'est-ce qu'il faut plus de 28 000 morts, de 12 000 enfants?
Il arrive.
Alors, moi, j'ai pas les chiffres. Moi, j'attends les chiffres du Quai d'Orsay. C'est ceux-là, moi, qui font foi pour moi. Ça, c'est un premier point. Pas que je nie qu'il n'y a pas des enfants, des femmes, des innocents qui meurent sous les bombes israéliennes. C'est que je me méfie énormément des données qui sont données par le Hamas. Et donc
sont des chiffres du Hamas que vous avez.
C'est des chiffres qui sont repris par l'ONU.
Non, c'est du Hamas, de l'UNICEF, de l'ONU. Vous ne maîtrisez pas le sujet.
Bien sûr, c'est vous qui ne maîtrisez pas le sujet. Vous racontez n'importe quoi depuis tout à l'heure.
Les seuls chiffres qui font foi pour moi, je suis désolé. J'ai confiance totale dans les services de renseignement français et au service des affaires étrangères françaises. C'est ces seuls chiffres que je prendrai pour pouvoir parler, parce que je sais qu'ils seront vrais, qu'ils seront pas maquillés, qu'ils seront pas détournés ni par l'un ni par l'autre. Mais quand on a dit ça, on n'a rien dit. Moi, je dis, il y a une solution. Tous ceux et toutes celles qui manifestent pour deux États et pour les droits des Palestiniens ont tout à fait raison et ils doivent le faire. Mais par contre, j'aimerais qu'ils manifestent en disant maintenant le Hamas, vous n'êtes pas la Palestine,
vous n'êtes pas les Palestiniens, vous êtes une partie des Palestiniens, mais une infime partie. Nous exigeons de vous que vous libérez les otages. Parce que une fois que tu vas libérer tous les otages, comment Israël peut continuer à justifier ses attaques
et ses
tirs ?
C'était une condition, libérer les otages.
Non mais
c'était une condition d'un cessez-le-feu.
Ça, c'est une évidence pour toutes les démocraties dont elle a ses ressortissants.
Parce que le Hamas, il
utilise ça.
J'ai pas fini.
Arrêtez de m'interrompre. Je vous ai pas interrompu. Moi, je vais aller jusqu'au bout de mon développement. Parce qu'il y a des gens qui nous écoutent derrière. Et il faut que ça soit audible pour eux. Et je voudrais surtout pas que mes paroles soient déformées par les uns ou les autres.
Et à Gaza, Gaza n'a pas donné de chiffres. Mais en revanche, systématiquement, elle a mis en garde contre une hausse tragique du nombre d'essais à la fois de femmes et d'enfants, etc. etc.
Ça, c'est une certitude.
Voilà.
C'est une certitude. Alors, c'est les plus personnes les plus vulnérables. Force est de constater que les chefs du Hamas sont planqués dans des bunkers et eux sont en sécurité. Qu'ils ont assez de nourriture pour pouvoir vivre un siège sous aucun problème. Et c'est la population qui est prise en étau et qui est prise en otage.
Allez-y.
Je rappellerai, et ça je vous demande de vous documenter si vous ne me croyez pas, au moment où on a obligé les Palestiniens à descendre sur le sud parce qu'on leur a dit on va vous raser le nord, les types du Hamas empêchaient les Palestiniens civils de descendre vers le sud et ceux qui descendaient se faisaient liquider. Donc moi je le dis clairement, nettement, le Hamas joue contre le camp des Palestiniens et en fait perdre 20 ans aux Palestiniens avant d'avoir deux États. Donc il faut, si vous voulez, arrêter tout cela et mettre en exergue ce gouvernement d'extrême droite israélien, parce que c'est un gouvernement d'extrême droite, et Netanyahou, j'espère qu'il sera jugé pour tout ce qu'il a fait avant, pendant et après, parce que ça continue malheureusement. Il faut que les otages soient libérés immédiatement. Et là, Israël n'a plus d'excuses de pouvoir continuer ses incursions.
On marque une pause, si vous voulez. Vous voyez, le sujet, effectivement. Hein.
Vous appelez ça des incursions. Enfin, moi, c'est quand même.
Incursions, c'est rentrer dans un territoire qui n'est pas le sien.
Oui, mais d'accord, mais on n'en est plus là. C'est-à-dire qu'on n'en est pas à trouver des excuses pour qu'un pays.
Bombarde, c'est ce qu'il trouve. C'est ce qu'il trouve comme excuse.
Oui, mais
Israël
bon,
dit aujourd'hui, moi, pour libérer mes otages, et d'ailleurs, il l'a démontré il y a en moins de 48 heures, ils ont libéré 3 personnes.
Mais c'est pas comme ça qu'on règle un conflit.
Je dis pas que c'est comme ça ou pas. Je dis, en tout cas, s'il n'y a plus d'otages, ils ont plus d'excuses.
Ah oui, c'est sûr.
Et on se retrouve tout de suite après 0153 48 3000. Vous pouvez réagir.
Les informés reviennent dans un instant. 19h-20h. Les informés présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Eh oui, je le savais que le débat, effectivement, allait être compliqué, mais en même temps, il faut l'aborder. Il faut l'aborder, évidemment, sans détour. Le débat, les informés avec Nabil Etakache, avec Augustin Varag, avec Karim Maloum, et enfin avec Philippe Nadji Boyaki. Tiens, direction le standard.
01 53 48 3000. Les informés vous donnent la parole.
Messieurs, vous savez quoi ? Eh bien, on va s'intéresser aux auditeurs, parce qu'il faut les entendre. J'ai Ayad qui nous appelle du 38. Ayad, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Vous nous appelez de quelle ville précisément ?
Je vous appelle de Grenoble.
Grenoble, bienvenue Ayette, et parlez bien dans le combiné de votre portable. On vous écoute concernant le conflit israélo-palestinien et évidemment la crainte de ce désastre humanitaire à Rafah. Et les débats que vous avez entendus en direct.
Alors bonsoir. Bonsoir à vous, bonsoir à tous.
Bonsoir.
Vous avez le droit de lui répondre.
Allez-y. Est-ce que j'ai la parole ?
Oui.
Alors, bonsoir. Alors, je me permets ce soir, parce que ça fait très longtemps, et ça fait très longtemps, en fait, que je souhaite parler.
Ben, oui. On vous écoute, Ayad, qu'est-ce qui se passe ? Ayad ?
Ah.
Ça va ?
Oui.
Qu'est-ce qui se passe ?
Vous m'entendez ?
Oui,
on vous entend bien, mais il faut y aller, parce qu'il y a du monde... Non, fallait la laisser. C'était important. Faut pas. Ayat, rappelez-nous, on a eu un souci au standard. N'hésitez pas à rappeler. Abdel de Nogent.
Allô, bonsoir.
Bonsoir, Abdel.
Bonsoir, Adil. Bonsoir à tous. Pour faire rapidement, Nogent-sur-Oise.
On va essayer de vous retrouver, Ayat. Hein. Allez-y, Abdel.
Oui, alors rapidement, moi je trouve ça, certains essaient de justifier l'injustifiable avec Israël. On accepte tout tant que, dès qu'il s'agit d'Israël, on accepte tout. Israël bafoue les résolutions de l'ONU, on s'en fout. Ils ne respectent absolument rien. Aujourd'hui, le Hamas, ils ont quoi comme solution? Aujourd'hui, si Israël veut absolument, moi je pense, hein, s'ils veulent absolument récupérer les otages, c'est pas en disant vous libérez les otages et point, ça marche pas comme ça. Il y a une entité qui s'appelle l'ONU. Ils ont qu'à aller signer en disant que on arrête, ça s'appelle une trêve, on arrête de bombarder, les otages sont libérés et on arrête tout derrière. Aujourd'hui, si le Hamas libère les otages, bon, moi ce que j'aimerais, hein. Et s'ils libèrent les otages, quels sont leurs, qu'est-ce qu'ils ont en contrepartie comme garantie pour que Israël s'arrête? Alors qu'Israël, ils ont deux buts. Libérer les otages, certes, mais aussi détruire le Hamas, mais en fond, derrière, c'est détruire la Palestine pour pouvoir remettre des colonies à Gaza. C'est ça le fond de l'histoire.
Je vais laisser répondre.
Et qu'on ne justifie pas l'injustifiable, parce qu'aujourd'hui, c'est Israël qu'on accepte tout. Ce n'est pas ça. Et écoutez, juste en parallèle, en comparaison, la guerre entre la Russie et l'Ukraine, en 2 ans, la Russie a utilisé moins de 10% des bombes qu'utilise aujourd'hui Israël en 6 mois. Est-ce que vous vous rendez compte qu'une bombe de plusieurs tonnes...
Ils vont vous répondre. Il y a Karim Alloumi,
je viens juste de terminer un papier sur ça, je vous donne les chiffres. Et en 2 ans, il y a 70 000 morts en Ukraine et 130 000 blessés, hein. C'est-à-dire que le conflit, armées, on en parle la troisième année. Hein, c'est-à-dire que ça, c'est des chiffres reconnus. Hein.
Mais vous avez répondu à Dalil Hadi.
Et les 70 000 qui sont morts en Ukraine, ce ne sont pas que des civils, monsieur. Alors,
Les deux, militaires et civils.
Non. Les 70 000, ce ne sont pas majoritairement des civils. Alors, soyez gentils, dites la vérité. N'essayez pas de justifier l'injustifiable. En Palestine, 99%. Je pense, hein, qu'on est vraiment au-delà des 99% où ce sont des civils. Admettez-le et arrêtez de justifier l'injustifiable. C'est tout à fait inadmissible et c'est intolérable.
Philippe Nadji voulait vous répondre, peut-être Nabil, mais sinon je vais accueillir Mokhtar. Mokhtar, bonsoir Mokhtar. Abdel, on va vous répondre. Hein. Bonsoir Mokhtar. Allô Mokhtar. Allô, bonsoir. De Seine-et-Marne, bonsoir.
Bonsoir. Vous m'entendez là?
Très bien, bienvenue, on vous écoute.
Bonsoir. C'est un peu dans la même lignée qu'a dit le monsieur. Depuis tout à l'heure, on entend le Hamas. Écoutez, on entend le 7 octobre. Le 7 octobre, déjà, sur les 1200 ou 1400, il y en a beaucoup, avec les hélicoptères, là, les excités avec leurs hélicoptères, là, ils ont bombardé, ils n'ont pas cherché à savoir qui était terroriste, qui était israélien, hein. Ils ont bombardé. Hein.
Alors, Mokhtar, d'abord, on va essayer d'éviter d'opposer, effectivement, les uns et les autres. Sinon, on ne va pas y arriver. N'opposons surtout pas, parce que sinon, le débat, il va dans tous les sens.
Oui, le 7 octobre. Et avant le 7 octobre, 500 morts en Cisjordanie. Avant le 7 octobre. Sabra et Shatila et Deir Yassin. Là, il y a le 7 octobre, ça y est, la Terre s'est arrêtée de tourner. Il y a le 7 octobre, le Hamas, ça y est, la Terre s'est arrêtée de tourner. Ben Gourion, je vous l'ai déjà dit, Ben Gourion, il a dit, on a volé leur terre, leur pays. Et ça, c'est même pas la peine d'en revenir là-dessus. Allez, au revoir.
Mokhtar,
Je ne
sais pas si vous souhaitez les répondre, vous pouvez les répondre, mais bon, moi je trouve que Mokhtar, il faut être mesuré.
Il faut tout faire pour avoir les deux États, avoir un système démocratique. Il faut tout faire pour que le Hamas soit désarmé. C'est une condition importante pour la paix dans la région et que. Si on réalise ça, facilement, Netanyahou doit être, il sera battu en Israël, j'en suis convaincu, mais il n'y aura pas de solution dans ce conflit, il n'y aura ni les deux États, ni la paix, et tant que le Hamas n'est pas désarmé. C'est une condition pour moi, c'est mon opinion, mais clair, net et précis.
Messieurs, effectivement, on voit bien que le débat, on continuera à en parler tous les jours sur ce conflit, ici même dans les informés, c'est très important, mais je vois bien que ça préoccupe tout le monde, et ça préoccupe aussi... le fait que nos auditeurs puissent réagir en direct comme ça. Tiens, ça tombe bien parce que j'ai un spécialiste aussi qui connaît bien le... Michel Taub, bonsoir. Avant de lancer le Quoi de Neuf, on était en train de parler sur la situation qui inquiète beaucoup nos auditeurs, notamment oui. Rafa. Vous pouvez nous livrer un petit message là-dessus parce que je vous cache pas que depuis tout à l'heure, j'ai ouvert l'antenne. On a nos débatteurs qui sont autour de plateau, des élus, des responsables de Renaissance qui sont là et des gens qui représentent évidemment monsieur et madame tout le monde. Michel Taub, clairement, ce qui se passe à Rafa, ça inquiète beaucoup. Est-ce que là-dessus, vous avez un avis ?
Écoutez, oui, j'ai un avis. Mon avis, c'est que toutes les vies... Comment dire ? La situation, elle est tragique. Elle est tragique. Alors, il y a les raisons qui ont amené à ce qu'elle soit tragique et il y a les faits du moment. Donc, si vous voulez... il est temps que la raison revienne, il est temps que un arrêt des combats, même provisoire, soit déclaré, dans l'intérêt d'ailleurs notamment des otages détenus par le Hamas. Il est temps que la diplomatie reprenne le dessus, mais en même temps, évidemment, le sang physique et moral qui a coulé le 7 octobre continue à rendre certains dirigeants israéliens toujours dans la colère et dans la vengeance sur ce qui s'est passé le 7 octobre. Mais oui, évidemment, ce qui se passe à Rafah est très très grave et toutes les morts civiles que l'on déplore depuis le 7 octobre sont trop de morts.
Michel Taub, on va vous lancer dans le Quoi de Neuf, c'est parti.
Les informés. Le Quoi de Neuf.
Comme chaque lundi, vous êtes l'éditorialiste, le directeur fondateur d'Opinion Internationale. Et Michel Taub, merci d'être avec nous. Vous allez nous faire le bilan de la CAN. Justement, allons-y, on vous écoute.
Alors, c'est difficile d'en parler après la question que vous m'avez posée, mon cher Adil. Mais permettez-moi...
Désolé, Michel Taub. Effectivement, parce qu'on était dans la foulée du débat, c'est pour ça.
Mais l'actualité, malheureusement, chasse l'autre. Non, je voulais saluer les auditeurs de Beurre FM et dire en fait que la Coupe d'Afrique des Nations de football qui s'est tenue en Côte d'Ivoire a été un très très grand succès. Et pour moi, ça a été un événement politique en fait. C'est pour ça qu'en tant qu'éditorialiste, je voulais en parler. Ça a été évidemment d'abord et avant tout une très très belle compétition avec beaucoup de suspense, beaucoup de surprises, des retournements de situation, évidemment, à commencer pour la Côte d'Ivoire qui était quasiment éliminée et qui se retrouve à gagner cette Coupe d'Afrique. Ensuite, ça a été une très très belle fête. Ça a été effectivement une coupe de l'hospitalité qui était le grand mot d'ordre des autorités ivoiriennes pour l'organisation de cette CAN. Et effectivement, je pense que avec cette compétition, l'Afrique a montré sa très très grande capacité d'hospitalité et franchement bravo, c'était vraiment un très très bel événement. Et puis enfin, c'était aussi un événement politique parce que je pense que la Côte d'Ivoire, on pourrait parler d'autres pays, on pourrait parler du Maroc, on pourrait parler d'autres pays, mais la Côte d'Ivoire, c'est un pays particulier, je trouve, en Afrique. C'est un pays très important. C'est un pays qui est stable maintenant depuis plus de 15 ans. C'est un pays qui est dans une bonne démarche de développement économique, où il y a peut-être un peu moins de corruption que dans d'autres pays qui entourent la Côte d'Ivoire. C'est un pays francophone. C'est quand même très important. Et puis enfin, permettez-moi, peut-être que certains ne seront pas d'accord.
Et c'est un beau pays aussi. Et un beau pays.
Très beau pays. C'est un très très beau pays. Mais c'est aussi, et permettez-moi un petit, pied de nez, mais un commentaire un peu décalé. C'est le titre d'un des éditos que j'ai publié sur la CAN hier. C'est aussi un peu une victoire française, cette Coupe d'Afrique des Nations. Et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il n'y a jamais eu autant de binationaux franco-africains qui ont participé à la CAN, et notamment dans l'équipe de Côte d'Ivoire, mais on pourrait parler du Maroc, on pourrait parler de l'Algérie, on pourrait parler de beaucoup d'autres pays. Et donc, quelque part, à l'heure où il est facile de faire du French bashing et de s'attaquer à la France, moi, je voudrais relever aussi de cette très, très belle compétition le fait qu'il y ait eu beaucoup de binationaux français et africains, franco-africains, qui ont participé et qui ont assuré le succès de cet événement. Et ça, pour moi, c'est très politique, parce qu'évidemment, dans les temps difficiles que l'on connaît, où les relations entre la France et l'Afrique sont très compliquées, eh ben moi, je veux être positif et prendre cette compétition comme étant une source d'amitié entre la France et l'Afrique.
Bravo pour le billet d'humeur. Bravo Michel Taube, bonne semaine à vous et à la semaine prochaine sans faute.
Merci mon cher Adil.
Merci Michel Taube, éditorialiste et directeur fondateur. Je vous invite à aller découvrir ces différents éditos sur Opinion d'Opinion International. Merci Nabil Etakache.
Merci Adil.
Bon, à très vite.
À très bientôt.
Augustin Vargue, à très vite.
Beaucoup.
Karim.
C'est un plaisir.
Malôme,
à
très vite. Merci. Monsieur le conseiller régional, à
quand
bientôt. Monsieur Philippe Nadjiboyaki, à très bientôt. Solal à la réalisation, Bilal Nenman. Eh bien, il s'empare du micro justement pour parler de sport et faire un petit bilan de la CAN. Ensuite, c'est Vanessa, 21h, Kim demain matin. Et quant à moi, demain avec autant de plaisir. Mais surtout, on ne lâche rien.
Retrouvez les informés tous les jours de 19h à 20h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.